La dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
Merci Antoine Mercier. Nous sommes toujours en direct avec vous de Livre Paris 2016, le nouveau nom du Salon du Livre. Et nous vous invitons pour cette dernière partie à un dialogue croisé entre deux chercheurs qui se sont lancés dans la fiction, anticipation, politique fiction. Nous allons voir avec eux. D'abord un sociologue, Michel Viviorca, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez la Maison des Sciences de l'Homme, vous faites paraître Le Séisme. Marine Le Pen, présidente, chez Robert Laffont, dans la collection Le Monde, comme il va, ou peut-être comme il ne va pas. Marc Auger aussi est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Anthropologue célèbre, vous avez présidé l'École des hautes études en sciences sociales, vous avez écrit une quarantaine de livres, dont ce dernier qui vient tout juste de paraître chez Odile Jacob, intitulé « La sacrée semaine qui changea la face du monde », un livre qui va réjouir notamment tous les athées. Les autres, je ne sais pas, nous allons voir avec vous de quoi il retourne. D'abord, je voudrais vous demander à tous les deux ce qui vous a donné envie de vous lancer, alors que vous êtes sociologue pour l'un, anthropologue pour l'autre, dans un exercice donc d'anticipation, de politique fiction, je ne sais comment le qualifier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça, Michel Viviorca?
Il y a plusieurs choses, mais ce qui a déclenché, c'est le livre de Michel Houellebecq.
Soumission.
Soumission. Parce que je me suis dit, l'idée est bonne, le livre est bien écrit, je l'ai lu avec bonheur. Mais enfin, le problème demain en matière politique, c'est quand même pas l'arrivée de l'islam au pouvoir en France. C'est le Front National. Donc, il s'est trompé, en quelque sorte. Il y avait ça. Et puis, il y avait plus généralement ce dont on vient de parler pendant le journal en grande partie. Ce sentiment que la vie politique et médiatique aujourd'hui, elle est encombrée de toutes ces discussions qui changent tous les jours, qui ne voient pas à long terme. L'horizon le plus éloigné, c'est de savoir si ce sera Sarkozy, Juppé ou Hollande que nous aurons comme président. Et moi, j'ai le sentiment, comme le dit un peu Nicolas Bavresse, que nous risquons de danser sur un volcan et que ce volcan, il faut imaginer ce qui se passera le jour où il entrera en éruption. Et donc, c'est un livre que j'ai écrit sur le mode de la fiction pour être libéré. C'est un livre qui est totalement faux en ce qui concerne les événements qu'il imagine, évidemment, mais qui est totalement vrai, je parle en sociologue, pour décrire un certain nombre de logiques, de processus, de choses qui nous attendent. Et donc, je me suis dit, il faut lancer ce type d'avertissement.
Oui, mais vous dites, j'ai écrit de la fiction pour être libéré de quoi ?
Écoutez, si j'avais voulu écrire un livre sérieux, ça m'est déjà arrivé sur le Front National, j'aurais dû supputer toutes les hypothèses, amener des statistiques, des données électorales, rentrer dans les discours précis, faire l'analyse du vocabulaire utilisé.
Mais pour être libéré de la science, en fait.
Écoutez, pour être libéré de la science, sans l'oublier. C'est-à-dire que je me suis appuyé sur des connaissances sérieuses, je crois, en ce qui concerne non seulement ce parti, mais tout ce qui est derrière tout ça. Ça m'a permis de dire ce que je pensais du monde médiatico-politique. C'est très dur pour Le Monde, c'est très dur pour les grandes chaînes de télé.
France Culture n'est pas
non,
dedans, hein,
vous
donc
êtes
ça va.
En dehors du coup, et c'est très bien comme ça.
On ne sait pas ce qui va nous arriver.
Je décris la classe.
L'audiovisuel public est sous le contrôle de l'Élysée quand même.
Oui, c'est la moindre des choses. Mais voilà, et donc, tout est vrai et tout est faux, et ça m'a fait beaucoup de bien.
Libéré de la science, éloge de la science dans votre cas, Marc Auger, on va y revenir, mais pourquoi cet exercice de politique fiction ?
Eh bien, je pense que Michel Viviorca a fait quelque chose de très sérieux, et moi non. J'ai fait une fiction-fiction. Donc c'était un acte de libération, d'une certaine manière.
Dans les deux cas, alors.
Et je m'en suis pris au fond à quelques formules que l'on entend souvent, disant par exemple la religion ça n'est pas cela. Or la religion, ça peut être étudié de plusieurs points de vue évidemment, mais si on la prend en historien ou en sociologue, on doit prendre l'ensemble, c'est-à-dire que les horreurs qui existe à côté d'adhésion tout à fait estimable. Donc, j'ai essayé de faire une fiction qui poserait la question de savoir que serait un monde sans religion.
Mais la question, c'est pourquoi d'abord, c'est cette question de la religion ou du monde sans religion, c'est le cœur, c'est le sujet de votre livre, Marc Auger. Là, la question, c'est le choix de la forme. Pourquoi la fiction ? Pourquoi pas un essai sérieux, dirait Michel Viviorca, comme si la fiction n'était pas sérieuse.
J'ai déjà fait des choses sérieuses sur la religion. Mais
pour vous renouveler, alors.
Eh bien, oui, si vous voulez. C'est pas la première fois que je fais des fictions, mais il arrive que les fictions, au fond, permettent de dire les choses plus librement.
Ah, il faut donner peut-être l'argument principal du livre, hein. Donc c'est le pape lui-même qui annonce que Dieu n'existe pas.
Oui, c'est
alors,
ça.
Ça crée tout un
ça
crée évidemment un certain traumatisme. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que si effectivement on enlevait cette idée, en tout cas d'une divinité existante au-dessus des hommes, tout s'arrangerait comme par miracle. C'est un peu ce que vous avez l'air de dire dans votre fiction. Est-ce qu'on peut vraiment croire ça,
Marc Auger?
Eh bien, écoutez, je crois que si on faisait l'expérience, on verrait que les choses ne vont pas, n'iraient pas plus mal, en tout cas. Si on enlevait du monde tous les affrontements dus à des questions religieuses, ça serait déjà ça. Alors, quant à savoir si il n'y a pas des gens qui prendraient la place de Dieu, c'est une autre question, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Donc, je ne fais pas de futurologie comme ça. Mais si on pouvait faire l'expérience, ça serait intéressant.
Michel Vébiorca, vous êtes d'accord pour faire l'expérience?
Écoutez, les régimes communistes l'ont tenté. Ça n'a pas été une grande réussite. Et donc, d'ailleurs, ils se sont accommodés quand ils le pouvaient de la religion. Donc, je trouve l'idée de Marc Auger superbe. Il faut réfléchir comme ça. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il nous dirait que vraiment son grand objectif ce serait un monde sans religieux. En tout cas, je pense que comme beaucoup de choses, ça peut être la catastrophe qu'elle est généralement. Mais
c'est... à propos du monde communiste, pardon de t'interrompre, justement, on entend souvent des raisonnements qui reproduisent ce que l'on disait du marxisme ou du communisme, en disant oui, mais le vrai communisme, ce serait pas ça. Il y avait toujours ce truc de temps.
Oui, mais ça, c'est pas seulement les religions, alors. Parce que, par exemple, le libéralisme, on dit la vraie réforme, si on la faisait,
ça marcherait, etc.
Donc, ce sont des constantes qui ne sont pas forcément liées à la question religieuse, qui sont liées aussi aux idéologies en général.
Oui, mais je suis frappé par le fait que, quand même, lorsqu'on parle de la vraie religion pour l'opposer à la religion réelle, enfin, la religion des basses œuvres, eh bien, on dit exactement la même chose que l'on disait dans la critique du communisme. Parce que le communisme réel, effectivement, était insupportable. Mais il y avait des marxistes qui disaient « oui, mais le... » Alors le « oui, mais » se reproduit de la même manière.
Marc Auger, tout à l'heure, Michel Vievurka disait que pour écrire son livre, qui part donc de l'idée que Marine Le Pen est élue présidente en 2017, hein, on est le 7 mai et c'est elle qui remporte l'élection présidentielle, il était parti d'un diagnostic qui pour lui était le vrai, le bon diagnostic, qui était le problème, la menace aujourd'hui en France, c'est le Front National, plus que l'islamisme ou même l'islam, disiez-vous, en référence au livre de Michel Houellebecq. Est-ce que ça veut dire pour vous, Marc Auger, parce qu'il y a quand même un fond sérieux dans votre livre, dans les deux livres de toute façon, vous vous êtes dit, mon diagnostic, c'est que le problème du monde, en tant qu'anthropologue d'ailleurs, c'est la religion aujourd'hui. C'est la place qu'occupent les religions, ou la religion, avec un grand R, dans le monde aujourd'hui.
Je suis frappé par l'importance du retour du religieux, oui. C'est vrai. Parce qu'on peut parler de l'islam, on pourrait parler des évangélistes, etc. C'est-à-dire qu'il devient très difficile, je crois, de critiquer la religion. J'ai le sentiment que ça produit un malaise et que l'on est désigné du doigt parce que on dit que l'on est athée ou que l'on ne croit pas. C'est quelque chose qui semble choquer l'opinion aujourd'hui, alors que bon, il y a quelques années, c'était pas ça.
Michel Vébiorca.
Oui, j'aurais posé une question à Marc Auger. Le pape aujourd'hui, François, c'est peut-être le dernier homme de progrès sur cette planète. Je veux dire, c'est un homme qui se présente comme un homme de justice, un homme qui dénonce la pauvreté, un homme qui se comporte personnellement de manière plutôt éthique, bref, et qui draine des foules gigantesques quand il se déplace. Et donc il y a quelque chose d'un peu paradoxal à faire de cet homme-là celui qui, enfin, je suppose que c'est lui, le pape qui annonce la fin de
Francesco.
Voilà, il s'appelle.
Oui,
voilà.
Bien sûr.
Donc, je trouve intéressant.
Faire un pas de plus dans la perfection, puisqu'il dénonce l'idée de Dieu. Il est parfait.
C'est de toute façon le premier d'une longue série dans votre livre. La Sacrée Semaine qui changea la face du monde débute par cette annonce fracassante donc du pape le 1er avril 2018 qui dit « Dio non esiste ». Mais en fait, on comprend vite qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond que cela, qu'il est presque victime d'une machination ou d'un complot de scientifiques. Et je disais effectivement éloge des sciences d'une certaine façon dans votre, ou du rationalisme, je ne sais pas, dans votre ouvrage, Marc Auger, puisque en même temps que l'humanité devient rationaliste en se débarrassant de la religion, eh bien, vous vous basez sur le progrès des neurosciences, des recherches en sciences cognitives, puisque vos scientifiques trouvent un produit qui élimine l'irrationalité dans le monde. Alors là, évidemment, on voit bien comme vous vous êtes amusé quand même à écrire ce livre.
Oui, bien sûr. Je précise tout de suite que ce produit n'existe pas.
Au cas où on voudrait se procurer.
C'est ça. Mais c'était le moyen de lancer cette fiction. Et vous savez que ce qui existe, en revanche, c'est il y a en effet aux États-Unis des études en ce qu'on appelle la neurothéologie. Et ce que je l'ai cité, et c'est vrai, ça se fait. Alors,
c'est quoi la neurothéologie ?
La neurothéologie, sont des laboratoires où on étudie les réactions du cerveau de moines tibétains ou de sœurs franciscaines au moment de leur ils sont volontaires, bien sûr, pour ces expériences. Et lorsque ils sont dans un état d'extase, eh bien, il y a des mesures qui permettent de montrer que les neurones, les faisceaux de neurones dans le cerveau s'arrêtent dans certaines zones cervicales, d'où des études sérieuses. Mais j'ai évidemment...
Vous pensez que ça pourrait se soigner, en fait, c'est
les
ça.
Choses.
Michel Vivirka.
Ah ben moi aussi, je fais appel aux sciences cognitives, aux neurosciences et à la science en général, mais c'est tout le contraire. Dans ma fiction, le nouveau garde des Sceaux, Gilbert Collard, qu'on voit bien à qui peut être confiée une telle responsabilité, fait savoir qu'il va s'appuyer beaucoup plus sur ce genre de savoir, en particulier pour mieux dire tout de suite qui est criminel et qui ne l'est pas, qui risque d'être criminel, enfin bref, pour faciliter le travail de la justice. Donc, oui, nous sommes, Marc Auger et moi, intéressés par ces nouvelles disciplines qui sont vraiment très intéressantes. Et en même temps, bah, ça peut servir à bien des choses.
Bien sûr.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
La Grande Table en direct du Salon Livre Paris en compagnie de deux chercheurs qui ont fait un travail de fiction et d'anticipation de politique fiction. Michel Vivirka qui est sociologue et qui a écrit Le séisme, Marine Le Pen présidente chez Robert Laffont, et Marc Auger qui est anthropologue et qui a signé La Sacrée Semaine qui changea la face du monde chez Odile Jacob. Antoine Mercier.
Michel Vivirka, vendredi 16 juin 2017, le Premier ministre Florian Philippot a nommé son gouvernement après des consultations rondement menées. Nicolas Dupont-Aignan à la Défense.
C'est pas mal, non ?
Gérard Longuet aux Affaires étrangères. Henri Guénaud à l'économie et aux finances. Marion Maréchal Le Pen à la culture. Donc l'avocat Gilbert Collard, vous l'avez dit, à la justice. Et Robert Ménard à l'intérieur. Voilà le gouvernement. Vous décrivez pendant 6 mois, donc, cette expérience d'une victoire de Marine Le Pen à la présidence de la République. Ça dure 6 mois et ça s'arrête finalement sur un bilan qui n'est pas si évident à tirer, je trouve. Bon, évidemment, il se passe des tas de choses qui ne sont pas très concluantes, mais malgré tout, on a l'impression que les affaires continuent quand même.
Il y a deux choses. D'une part, le Front National fonctionne sur un registre mythique, c'est-à-dire qu'il a un discours qui concilie de manière imaginaire des choses qui ne sont pas conciliables dans la réalité. Ça va tant qu'on n'est pas aux affaires. Mais quand on est aux affaires, ça ne marche plus. On a promis le retour à la peine de mort, c'est pas possible. On a promis la sortie de l'euro, la sortie de l'Europe, ça se passe mal. Et c'est pas possible, ou alors à un coût incroyable, etc. Et donc plus les mois avancent, ça c'est le premier point, plus les mois avancent, plus le Front National se retrouve coincé entre ce type d'exigences contradictoires tenir parole vis-à-vis de son électorat et se confronter au réel. Mais il y a une deuxième logique dans votre question qui est plus politique. Qu'est-ce qui se passe politiquement ? Alors, il fallait bien, dans un premier temps, qu'une fois élue, elle ait un parlement qui lui permette de gouverner. Donc, on aurait pu imaginer beaucoup de choses. Moi, j'ai choisi de considérer qu'une partie de la droite classique la rejoint. Vous verrez dans le livre que Nicolas Sarkozy n'est pas totalement étranger à tout ça. Et donc, quelques ministres, vous n'avez pas donné la liste de tout le gouvernement, mais vous en avez qui...
Je ne voulais pas affoler les populations.
Non, mais vous auriez pu parler d'Éric Zemmour, quand même, à l'éducation.
À l'éducation nationale.
Et donc, par exemple... Et donc, si
qui
vous
veut
voulez...
proscrire la barbe chez les enseignants et chez les élèves.
Quand même, ça fait 68 heures à
tarder. Vous êtes amusé aussi. Hein.
Mais il y a un petit côté farce, c'est vrai. Mais parce qu'il faut, montrer le caractère, incroyable de tout ça. Enfin, il faut montrer que, un peu comme Charlot avec le dictateur, si vous voulez. Il faut dire des choses fortes en montrant qu'il faut s'arrêter, qu'il faut y réfléchir et que sinon on est dans l'irréel.
C'est étonnant ce que vous dites. Juste, je vous interromps, mais ne perdez pas le fil de votre pensée. Parce que d'un côté, vous dites il faut montrer le côté incroyable et de l'autre, vous vous basez sur des choses qui sont très réalistes, qui sont tout à fait possibles, à commencer par cette histoire de peine de mort. On promet le rétablissement de la peine de mort, puis on se rend compte, quand on est au gouvernement, que ce n'est pas possible. Ça, c'est assez réaliste.
Alors, j'ai voulu faire quelque chose de très réaliste et de le traiter sur un mode, on en parlait il y a un instant avec Marc, sur un mode de fiction qui libère, qui permet d'inventer, d'imaginer. Alors, j'ai pas tout à fait terminé de vous répondre. Donc, il y a des processus politiques. Il faut décrocher une partie de la droite classique pour avoir un législatif avec qui on peut travailler. Et sinon, c'est une cohabitation improbable. Et les choses se passent. Et puis, il arrive un moment où, effectivement... les quelques personnes qui incarnent cette droite classique au gouvernement sifflent la fin de la récréation. Ça n'est plus possible. Et ils s'en expliquent d'ailleurs de façon un peu singulière, vous verrez. Et donc, quand la récréation est terminée, Marine Le Pen est toujours présidente. Elle n'a plus de majorité au Parlement. Alors là, ça sera la fiction suivante, peut-être.
Et à quoi ça sert, finalement, tout ça, Michel Vévorka ?
Écoutez, d'abord, à me semble-t-il, à réfléchir. Et à donner à réfléchir. Je ne peux évidemment pas me résoudre à accepter un scénario comme celui-ci. Mais il est réaliste, il n'est pas totalement exclu. Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faut envisager pour éviter qu'on en arrive là ? Parce que le jour où ça arrive, ça laisse des traces, même si ça ne dure pas pour l'éternité. Et donc il y a un petit côté appel à se ressaisir.
Vous avez pensé que vous risquiez de participer à ce qu'on a appelé depuis quelques années la diabolisation du Front National et que ça pouvait être contre-productif ? C'est-à-dire à qui s'adresse ce livre ?
Ce livre n'est pas dans la diabolisation. Ce montre au contraire les ambiguïtés du Front National qui est sous tension entre des logiques héritées du passé qui n'ont pas entièrement disparu et qui, à mon avis, lui sont nécessaires, des logiques sulfureuses, et des logiques de respectabilité, d'élection, de fonctionnement démocratique. Et par exemple, dans ce livre, je montre à quel point, quand il y a de la violence physique, parce que depuis 30 ou 40 ans, on a...
En particulier contre les musulmans, dans votre...
Eh bien, quand il y a ça ennuie le Front National. C'est pas sa stratégie. Ça lui pose problème. Donc, je ne le diabolise pas. J'essaie de montrer ce qu'il est dans sa complexité, ses ambiguïtés, ses ambivalences.
Marc Auger, vous avez lu ce livre de Michel Vievorka ?
Oui, je l'ai lu. Et je l'ai trouvé très réaliste, en fait. Et c'est un peu effrayant.
Et en plus, amusant.
Amusant, mais réaliste. Et ça se termine, au fond, par le constat que notre République ne marche pas bien.
Crise politique et institutionnelle.
Crise politique institutionnelle. C'est donc moins fictif que...
Qu'il en a l'air. Vous vous êtes mis, Michel Vievorka, dans la tête d'un journaliste américain. Il se trouve que c'est un des points communs de vos deux livres. Il est question des États-Unis aussi dans le complot scientifique pour la rationalité, pour éradiquer l'irrationalité du monde, puisque ça va jusqu'à l'élection américaine. Peut-être que le produit mériterait d'être aujourd'hui très vite mis en route et mis en circulation. Vous vous êtes mis, Michel Vievorka, dans la tête d'un journaliste américain qui parle d'ailleurs d'un certain Michel Vievorka comme d'un observateur perspicace. Donc vraiment, vous vous êtes amusé.
Il est très objectif.
Oui, c'est ça. Pourquoi un journaliste américain? Pourquoi un journaliste déjà et pourquoi américain ?
Alors, je vais vous faire un aveu. Ce journaliste américain s'appelle Michael D. W. Squirrel.
Alors, dites-nous le secret.
Mon nom en polonais veut dire écureuil. Et en anglais, écureuil se dit squirrel. Et donc, Marc Auger a raison de dire que je ne suis pas complètement, peut-être même bien peu, dans la fiction. C'est moi. Alors, je voulais faire un livre totalement sous pseudonyme. Un pseudonyme totalement transparent, facilement repérable.
Mais et d'ailleurs, Michel Viviorca, sur la quatrième de couverture, Michel Viviorca, sur France Culture, merci pour ça, 19 février 2018, dit « J'aurais aimé écrire un tel livre ».
C'était dans la grande table.
Oui, c'était, j'avais envie de montrer aussi qu'on peut, être extrêmement sérieux, parler de choses dramatiques, sans perdre une certaine capacité de recul, et donc l'humour fait partie de ça. Alors, pourquoi un journaliste américain ? Américain, bah, c'est le côté lettre persane, ça fait toujours du bien de se détacher de sa propre société. Et un journaliste américain, parce que comme mon livre comporte beaucoup de critiques du journalisme français, c'était une façon d'introduire cette thématique d'un autre type de journalisme. C'est pas qu'il soit toujours mieux, le journalisme américain, je veux pas du tout. Mais le très bon journaliste américain, matter of fact, on sépare l'analyse du commentaire, etc., c'est intéressant. Mais mon journaliste est cultivé, et si vous lisez le texte d'introduction, vous...
Quel discours de réception d'un Grand Prix américain ?
Eh bien, si vous verrez que ce journaliste a une connaissance extrêmement forte de Tocqueville, et que sa façon d'écrire lui doit beaucoup.
Et puis le livre se déroule ensuite comme le recueil des chroniques de ce journaliste sur la France, donc de mai à décembre 2017. Vous, Marc Auger, vous avez choisi le « je ». Ce livre, La Sacrée Semaine qui changea la face du monde, est écrit à la première personne du singulier. Comment est né ce choix d'écrire en disant « je » ? Est-ce que « je » c'est vous dans ce livre ?
Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui, sous certains aspects, peut me ressembler. Mais non, c'était. Je voulais avoir un témoin de cette fiction. Et le... Jusqu'au moment final, on essaie de... J'ai composé un personnage un peu laïcard, dur, un peu qui enfonce le clou et qui... Ça n'est pas moi. Ça n'est pas moi.
L'un et l'autre, vous avancez masqué, en quelque sorte. Il vous faut un autre personnage pour pouvoir dire des choses qui sont plus fortes que vous n'oseriez les dire.
Oui, si vous voulez.
Ça aussi, c'est ce que permet la fiction, que ne permet pas l'essai.
Oui, bien sûr. C'est la fiction qui permet cela. Mais le personnage jusqu'au bout est le témoin de ce qui se passe. Et je lui ai fait dire « je », oui, ça. Et puis il a un partenaire aussi. Il a un partenaire.
Dont vous pouvez parler ?
Dont je peux parler, oui. Mais qui...
C'est qui ce partenaire ?
C'est son fils, en fait. Et, mais on ne le sait qu'à la fin.
Ah bah voilà, bah, vous avez tout révélé, bah bravo. Mais comme ça vient de vous, ça
va. Dans le dialogue, justement, il y a à la fin. Tu vois, les gens ont compris que derrière le mot Dieu se cachait ce qu'il y avait de meilleur chez les humains. Leur pleine conscience de la vie. C'est elle qui les rend semblables malgré leur infinie diversité. C'est elle qu'ils partagent. C'est elle qui les pousse à se rassembler, à se serrer les rangs, à resserrer les rangs quand un ami meurt. Est-ce que vous ne réinventez pas finalement une idée de Dieu derrière tout cela, manifestée par ses comportements humains même ?
Marc Auger.
Et pourquoi une idée de Dieu ? C'est le mot qui me surprend, parce que tout cela c'est très humain. Et qu'il y ait dans l'homme individuel, une idée de l'humanité, ça me paraît déjà beaucoup. D'ailleurs, l'anthropologue, c'est ce qu'il cherche, l'anthropologue. Il est ethnologue lorsqu'il étudie les cultures, il est anthropologue au sens où il essaie de les dépasser. Et je ne vois pas l'utilité de mettre un nom sur cette humanité-là.
Donc vous êtes pour le Dieu qui n'est pas nommable, en fait.
Pas nommable, si. Il y a une idée de l'homme dans chaque homme. L'homme générique est présent dans l'homme culturel et dans l'homme individuel, si vous voulez. Et je crois que lorsque Armstrong a marché sur la Lune, on n'a pas dit un Américain a marché sur la Lune, on a dit l'homme a marché sur la Lune. Il y a une idée de l'homme en soi qui est présente dans chacun des petits individus que nous sommes.
Et que l'idée de Dieu nous empêcherait de voir, selon vous, selon votre livre, en tout cas la thèse de votre livre, que l'idée de Dieu, créée comme extérieure aux hommes, à l'humanité, nous empêcherait d'atteindre cette conscience, parce que vous nous dites que, voilà, se cachait derrière cela le meilleur de ce qui existe chez les humains.
Oui, oui, je pense cela. Et je crois que l'idée de Dieu, c'est un nom sur à l'inconnu. N'est-ce pas ? Je ne supprime pas l'idée du mystère de l'univers, la complexité des choses, le fait que les hommes s'interrogent. Mais déjà Freud le disait dans L'avenir d'une illusion, c'est cela qui est une attitude proprement spéculative. Mais si vous mettez un nom là-dessus, vous ne faites que reculer les choses. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu ? Et les réponses, elles sont dans l'histoire. J'ai longtemps travaillé en Afrique chez des prophètes qui expliquaient ce qu'était Dieu. Et
là, c'est votre téléphone qui sonne, manifestement.
Francesco, vous appelez.
Je vais vous laisser l'éteindre. Voilà. Pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais avec vous deux revenir à cette question de la forme de votre livre et du choix de la fiction, parce que c'est quand même pas anodin que des chercheurs se mettent à écrire, même si vous n'êtes pas les premiers à le faire, mais se mettent à écrire des formes qui sont des formes atypiques pour les chercheurs que vous êtes. On voit aussi des chercheurs se mettre à faire de la bande dessinée. Alors, c'est toute une réflexion qu'on peut mener sur le livre dans la cité ou sur la place des chercheurs dans la société aujourd'hui. La réflexion nous est permise par ce lieu où nous sommes, le Salon du Livre à Paris. Cette forme-là, j'aimerais vous demander comment vous avez fait pour la travailler, cette matière qui a été la vôtre. On voit dans le livre de Michel Viviorca, à la fois violence contre les musulmans, je reviens sur l'idée que Marine Le Pen est élue présidente en 2017. Les cours de la bourse s'effondrent. Manuel Valls, au départ, reste en place. On voit l'apparition de comités bleu-blanc-rouge. L'audiovisuel public passe sous le contrôle de l'Élysée. L'ENA est transférée à Perpignan. Une peine de détention à perpétuité sans remise de peine est instaurée. Marine Le Pen se rapproche de Moscou. Netanyahou est reçu à l'Élysée. La France quitte l'OTAN. Le bagne est rétabli. Quelques exemples de ce que vous nous proposez, plus exactement de ce que votre journaliste, Michael Schreiber, nous propose dans ses chroniques de la France de mai à décembre 2017. Est-ce que vous vous êtes basé, puisque c'est réaliste et incroyable, sur de la recherche, des essais que vous avez menés, puisque vous êtes quand même un spécialiste de ces questions-là, Michel Viviorca? À quel moment avez-vous laissé, à quel moment vous vous êtes dit, il faut que là, mon imagination prenne le dessus? Et à quel moment vous vous êtes dit, il faut que pour le lecteur, il y ait souci de véracité ou de vérité de mes propos?
Il n'y a pas des moments où c'est ceci et des moments où c'est cela.
Tout est mélangé.
C'est un processus, écrire un livre comme celui-là. Alors, je me suis dit que pour écrire ce livre, il fallait voir les dimensions internes à la société française et les dimensions, disons, géopolitiques ou européennes ou internationales. Et connaissant assez bien le Front National, les discours, etc., donc je n'avais aucune difficulté à repérer les points clés. Sur ces points clés, j'ai mis en scène des personnages qui sont des vrais personnages, et tout ce que je dis sur eux jusqu'à 2015, j'en dis pas mal, est plutôt vrai. Il y a des petites nuances parfois, mais enfin c'est vrai. Et donc, vous savez, je n'ai pas fait de recherche particulière, mais j'ai mobilisé mes connaissances. Mais je vais vous dire, merci à Google et à Internet pour un livre comme celui-là. C'est une mine. Quand vous avez une idée, je prends un exemple, j'ai l'idée du bagne. L'idée me traverse l'esprit et je regarde. Et en cherchant un tout petit peu, je découvre que Dupont-Aignan, un jour, a déclaré comme ça au passage qu'il fallait rouvrir le bagne. Alors là, il y avait un boulevard qui s'ouvrait devant moi. Alors après, j'ai été chercher des informations sur comment... retrouver, parce que j'avais lu des choses, sur comment ça fonctionnait, quand est-ce que ça s'est arrêté, etc. Donc j'ai été chercher du réel. Bon. Et puis en même temps, à chaque fois, je me disais, il faut que mes personnages... C'est jamais personnel, hein, je ne dis jamais des choses sur la vie privée ou sur l'aspect physique, mais il faut que mes personnages aient de l'épaisseur. Donc je les mets en scène. Donc là, j'essaie d'inventer des choses, et j'ai été rattrapé par la fiction deux ou trois fois. Par la réalité, je veux dire. Alors ça, c'est quelque chose de très désagréable. Heureusement, j'avais encore les épreuves à corriger. Par exemple, le ministre de l'Éducation décide...
Éric Zemmour, donc.
Éric Zemmour annonce qu'il va mettre des portiques devant tous les lycées. Paf, Laurent Wauquiez, au moment de sa campagne au régional, annonce qu'il va mettre des portiques, ou juste après, qu'il va mettre des portiques. Alors ça, j'ai pu rattraper le coup. Et là, je rattrape le coup en citant... Alors, j'ai été rattrapé, ça c'était le pire pour moi, et c'était très douloureux pour moi. Il y a des scènes de déchéance de la nationalité dans mon livre. Quand j'écrivais ce livre cet été, je n'aurais pas imaginé un quart de seconde que ce débat serait ouvert de cette manière-là par un gouvernement de gauche. Jamais. Jamais. Et donc, voilà. Donc, heureusement, j'ai eu le temps de l'évoquer. Et donc, c'est des choses qui font que il faut être très, suivre l'actualité, avoir de la curiosité. J'ai découvert plein de petites perles en allant comme ça, ici ou là. Et vouloir que le réel et ce qui est imaginé aillent ensemble avec un petit côté farce. Vous avez évoqué l'ENA à Perpignan. C'est un petit côté farce, mais c'est une façon de dire, on peut pas se passer complètement de l'ENA. Et on veut pas non plus des énarques. Oui, ce genre de choses.
Marc Auger, vous avez vécu cette expérience de la fiction rattrapée par la réalité en écrivant votre Sacré Semaine qui changea la face du monde ?
Hélas non.
Vous auriez pu, à certains moments où vous écrivez, et là je pense que c'est basé sur la réalité, où vous écrivez ces passages entiers de violence du fait religieux dans le monde, avec oui, des ça. Chiffres, avec des faits
oui,
réels.
Oui, alors là, je remarque que chez Michel, justement, il n'y a pas d'attentat pendant la période de Marine Le Pen.
Il aurait fallu qu'il y en ait.
Je ne sais pas, mais je note qu'il n'y en a pas. Et en revanche, chez moi, il y en a plein. Et c'est face à cette violence-là que s'imagine le couple, que s'imagine la solution, n'est-ce pas, que je ne vais pas dévoiler.
Non, ne la dévoilez pas, vous avez déjà dévoilé la fin de votre ouvrage, mais en tous les cas, nous restons dans la quatrième dimension.
Je viens de sortir de chez moi, mais je ne reconnais pas ma rue. Couloir humide et froid qui se perd plus loin que ma vue. Il n'y a plus de magasins, rien que des fenêtres borgneux, rien que des fenêtres borgneux, et je marche sur du sapin.
Une chanson des années 60 qui nous plonge dans la quatrième dimension, Victoire Scott, le choix de notre réalisateur Philippe Baudouin. Merci à tous les deux. Marc Auger, la sacrée semaine qui changea la face du monde quand le pape a déclaré que Dieu n'existait pas. C'est publié aux éditions Odile Jacob. Merci Michel Wiewiórka. Le séisme, Marine Le Pen présidente, c'est édité chez Robert Laffont. Voilà la fin de cette première émission au Salon du Livre Paris. Nous nous retrouvons demain. Un grand merci à Clémence Marie en particulier qui m'a aidé à préparer cette émission et qui est ici avec nous au Salon. À la réalisation donc Philippe Baudouin et à la prise de son, c'était Élise Le. À demain.